Marie-France, on savait que Bernard Landry était malade et puis son état s'est aggravé au cours des dernières semaines. Des amis proches, des gens qui ont travaillé avec lui aussi se sont rendus le visiter à Verchères. Gilles Duceppe était avec nous, il y est allé, Lucien Bouchard est allé aussi et d'autres. Longue carrière politique qui a pris fin de façon abrupte. Lorsqu'il avait décidé de quitter en juin 2005, tu te rappelles?
Exactement, avec 76,2% des votes, alors qu'il aurait, avec un pourcentage comme ça, il aurait très bien pu rester.
Et Marie-France, je t'interromps un instant, on va revivre cet instant.
D'accord.
Du 4 juin 2005.
Mes convictions ne seront pas changées d'un iota. J'aurai même plus de temps pour les approfondir et pour en parler. Mais je ne serai plus en mesure de diriger ce parti que j'ai tant aimé et que j'aime encore.
Et il a dit par la suite qu'il avait toujours regretté cette décision. Gilles Duceppe l'avait appelé quelques minutes après en disant « Voyons, Bernard, tu peux pas faire ça. 76,2 sont avec toi. »
Et on peut se demander, tu sais, il y a ce en littérature, est-ce que c'est de l'uchronie ou de la dystopie? Quand tu pars d'un fait et que tu imagines quelque chose d'autre qui arriverait, imagine s'il était resté, l'histoire de ce parti-là aurait certainement été différente. Je ne sais pas si ça l'aurait mené à son idée d'indépendance. C'était vraiment un amoureux du Québec et qui rêvait de l'indépendance du Québec. Je ne sais pas s'il serait arrivé, mais certainement que l'histoire du Parti québécois aurait été différente. J'ai eu l'occasion de l'interviewer plusieurs fois, M. Landry. C'était un homme très cultivé, généreux, éloquent, qui pouvait être cinglant par moments, mais un amoureux du Québec, ça transparaissait dans tout ce qu'il faisait. Vraiment un des derniers morceaux historiques du Québec politique qui croit à l'indépendance vient de disparaître. Et il faudra revoir, j'ai hâte de voir quel diffuseur mettra à l'antenne le documentaire que Jean-Claude Labrecque lui avait consacré à Hauteur d'homme.
Quel film remarquable!
Vraiment! Et du point de vue documentaire, c'est remarquable. Et du point de vue de l'homme qu'on suit, c'est remarquable. Ce qui est triste, c'est qu'il n'aura jamais vu son rêve se réaliser. Mais on n'oubliera pas, t'en as parlé tout à l'heure avec Mathieu, son rôle dans l'industrie du numérique au Québec. C'est lui qui était le précurseur des nouveaux rapports avec les Premières Nations, avec la fameuse paix des braves. C'est à lui qu'on doit la journée des patriotes. Beaucoup, beaucoup de choses à son actif et surtout un grand pédagogue qui n'a jamais arrêté à l'université ensuite, mais dans tout ce qu'il faisait, c'était un pédagogue. Bref, vraiment, bon repos, M. Landry.
Un beau résumé. Il a été aussi un acteur important dans la création de plusieurs mesures sociales, comme notamment, on oublie ça, M. Landry est associé aux garderies à 5 $ et l'assurance médicaments.
Oui, et d'un autre aspect, c'est lui qui est le responsable de l'entrée de Maxime Bernier en politique.
Oui.
Oui, il l'avait pris sous son aile. Ils avaient collaboré.
Maxime Bernier.
Absolument, absolument. Pris sous son aile. Ils avaient fait vraiment du travail de fond sur l'économie du Québec ensemble. Et puis Maxime Bernier, qui était peut-être un petit peu moins à droite à l'époque, un peu moins conservateur, qui a volé de ses propres ailes par la suite. Mais non, ils ont travaillé ensemble.
C'est drôle parce qu'André Boisclair nous a dit que sa première carte de membre du Parti québécois, achetée à 19 ans, lui avait été vendue par Bernard Landry. Mm-hmm. Il vendait des cartes, lui aussi.
Ah oui, vraiment travail de fond.
Bon, ben alors, c'est pour ça que je te dis, Marie-France, je ne sais pas si tu as eu une vision, parce qu'on parle de M. Landry, on l'a dit, un personnage incontournable dans l'histoire du parti, qui se cherche, le Parti québécois.
Ah oui.
Et Jean-Martin Hossan, lui, réclame une refondation du
Rien
Parti
de
québécois.
Moins. Il veut même, à la limite, que ça parte sous un autre nom, cette affaire-là. Ah non, vraiment, ça tombe bizarrement aujourd'hui. Le prochain congrès du Parti québécois, s'il n'en tient qu'à Jean-Martin Hossan, en sera un de refondation ouvert à tous les souverainistes et non pas un congrès traditionnel du Parti québécois. Au fond, on s'en est déjà parlé du Parti québécois après les élections du 1er octobre. Au fond, je pense que M. Hossan voit juste, si le Parti québécois ne change rien, s'il ne fait que réélire un nouveau chef, ben on connaît déjà le résultat de la prochaine élection pour lui. Mettons, on va faire image et métaphore. Mettons un bâtiment commercial. Ça serait pas juste une nouvelle devanture en briques, ça serait avec une nouvelle administration dans la fenêtre. C'est pas ça que ça prendrait. Il faudrait creuser la cave, il faudrait pieuter et avoir un sous-sol, disons, plus haut qu'un vide sanitaire. Mais là, il faut connaître l'arpentage du terrain. entre toi et moi, l'aile gauche et l'aile jeune sont passées à un nouveau propriétaire qui s'appelle Québec solidaire, sous la coupe du discours diversitaire qui a enfoncé l'idée que le PQ était raciste et xénophobe. Le corps central du bâtiment, ça, c'est l'identitaire. Ça appartient dorénavant à la CAQ. Et l'indépendance, ben, l'indépendance, c'était le grenier à lucarne qui a été jugé trop désuet et qui est condamné depuis 10 ans. Fait que même si le PQ voulait refonder son bâtiment, changer de nom et le rejeter, on revient à M. Landry, on revient à l'évêque et Parizeau, rejeter l'héritage historique, est-ce qu'il réussirait à vendre la bâtisse? Et si oui, à qui? Tous les acheteurs potentiels ont déjà trouvé leur maison. Je quitte la métaphore du bâtiment. Il reste, à mon avis, beaucoup de questions très terre-à-terre suite à cette volonté de Jean-Martin Hossan. Est-ce que c'est une idée qui séduira les péquistes? Tout d'abord, l'idée que ce soit ce congrès ouvert à tous, ils risquent de se faire noyer ou de se faire manger par Québec solidaire. Ils ont déjà goûté à cette médecine-là et je ne suis pas sûre qu'ils veulent y retourner. Quelle place reste-t-il au PQ sur l'échiquier politique actuel, même rebrandé, même avec un nouveau nom? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est ranimer, rebrander un mort ou, dans les termes de rebranding, un beaucoup blessé? Refondé sur quoi? Sur l'indépendantisme ou sur le nationalisme? Le terrain est déjà occupé de ce côté-là. Et si c'est l'indépendantisme, par quoi, par qui cette idée pourrait-elle être portée le mieux dans les prochaines années? Est-ce que c'est par un parti ou par des intellectuels ou par un mouvement? Je vais terminer, Paul, sur ce sujet-là en parlant du nom, parce que Jean-Martin Hossan parle même de changer le nom du Parti québécois. Tu sais que la mode en ce moment, c'est d'avoir une qualité dans son nom de parti, comme les Solidaires, il y a les Lucides qui avaient lancé leur manifeste. Le mot national est maintenant honni internationalement.
Oui, donc, on l'a reproché à Donald Trump il y a quelques jours.
D'être nationaliste.
Exact.
Voilà. Alors, il ne faut pas ce mot-là dans le titre. Parti... En ce moment, on va plutôt vers des mouvements. Le mot québécois, ben, ça rime avec xénophobie. Donc, je suggère le mouvement indépendantiste du Bas-Canada.
Aïe, aïe, aïe!
Ben oui. Faut pas mettre le mot québécois, faut pas mettre le mot parti, faut pas mettre le mot national.
Ça, Marie-France Bernard-Landry n'aurait pas aimé. Mais
non, je sais. Non, mais je suis pas sûre qu'il aurait aimé la proposition de Jean-Martin Hossan non plus.
Alors, répète-moi ça, le parti indépendantiste
du Bas. Le mouvement indépendantiste du Bas-Canada.
On peut-tu faire un acronyme avec ça? Mouvement...
M-I-B-C.
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 Oui.
Hashtag M-I-B-C. Sur
d'accord.
Twitter, ça se dit.
Alors, voilà la nouvelle chef du parti, Marie-France Bazot.
Non, très loin de moi la politique.
Non, c'est vrai, tu veux travailler avec mon parti que je vais créer, là, comme Maxime Bernier, mais mon parti qui est le PGBS, qui est le parti du gros bon sens.
Oui, ça a de l'allure.
Oui.
Oui.
Et ce sont les élections de mi-mandat.
Oui.
Écoute, aujourd'hui, en fait, c'est pour renouveler la Chambre des représentants, c'est pour combler, en fait pas combler, revoir les postes de 35 sénateurs, les gouverneurs, mais c'est surtout un référendum sur Trump.
Exactement. Parce que techniquement, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est très compliqué et Raphaël l'a très bien expliqué dans l'heure précédente, mais c'est vraiment, il va y avoir une frénésie alors qu'habituellement, les élections de mi-mandat, tu sais, c'est un peu bof. Les gens ne se pressent pas pour aller voter, alors que là, vraiment, référendum sur Trump, lui-même a presque fait ça, l'a presque présenté de cette manière-là. Ça a toujours... on va se rendre compte que... les États-Unis sont divisés en deux. Ça a toujours été. Il y a eu dans ce pays-là la guerre de sécession, le Nord contre le Sud, les esclavagistes contre ceux qui n'étaient pas. Il y a toujours eu les villes contre les régions, la côte Est contre la côte Ouest. Ça ne date vraiment pas de Donald Trump. Mais Trump a joué, au cours des deux premières années de son mandat, a joué cette division-là, y compris le ressentiment, utiliser le ressentiment d'une partie de cette population-là qui se sent vraiment déclassée. Il a exacerbé ce sentiment-là. Alors, résultat, les États-Unis sont fracturés, pas juste socialement, économiquement, géographiquement ou politiquement, mais maintenant idéologiquement. Et M. Trump a vraiment sciemment travaillé à creuser le fossé, à dresser les uns contre les autres. Alors, les deux partis sont vraiment aux antipodes de l'électorat. Et quels que soient les résultats de ce soir, enfin, les premiers résultats de ce soir, parce que ça va s'éterniser, ça aussi, ça va être très long, Donald Trump aura réussi son pari, celui de faire pour les États-Unis, des États-Unis, un endroit plus rude, plus dur, plus crinqué, plus déchiré, plus violent, et ça va prendre plus qu'une majorité démocrate à la Chambre des représentants pour réparer ça. Ils en ont pour des années. Peu importe le résultat de ce soir, il y a quelque chose qui aura été, en 2 ans, c'est fou, hein, c'est rapide.
C'est incroyable.
Mais il aura vraiment mis le doigt sur quelque chose qui existait avant lui. Mais lui a ce flair, il a été un espèce de radar, de catalyseur. Il a mis le flair, il a mis le doigt sur une division vraiment, tout ce qu'il y a de plus laid, je trouve, dans les États-Unis.
Mais il a fait des petits à l'international. Regarde ce qui s'est passé au Brésil, ce qui se passe en Hongrie en ce moment. Même, il y a un mouvement très trumpiste en Pologne.
Oui.
Alors, il a exporté
l'Italie.
Un peu. Oui.
C'est un mouvement qui existait un peu partout. Il y a vraiment une concordance des temps, c'est clair. Mais lui a vraiment, autant le nouveau président du Brésil a compris ce qui se passait dans son pays, autant Trump a compris ce qui se passait dans son pays. Ce qu'il en fait, on peut être d'accord ou non, mais il l'a compris. C'est ça que les démocrates ont beaucoup de difficultés à prendre. Il a compris quelque chose.
Merci Marie-France et à demain.
Oui.
Au revoir.